Fécondité, livre 6, chapitre 1. Un dimanche matin, Norine et Cécile, qui malgré le jour férié, travaillaient aux deux côtés de leur petite table commune, dans le coup de feu des cartonnages pour les étrennes prochaines, reçurent une visite dont elles restèrent toutes pâles de stupeur et d'épouvante. Jusque-là, leur vie ignorée, cachée, avait coulé paisible, sans autre combat que les deux bouts de la semaine à joindre et que l'argent du terme à mettre de côté tous les 3 mois. Depuis 8 ans qu'elles habitaient ensemble, rue de la Fédération, près du Champ de Mars, la grande chambre aux fenêtres gaies, dont la propreté coquette les rendait fières, l'enfant de Norine avait gaillardement poussé entre ses deux mères, également passionnées et tendres. Car il finissait par les confondre. Il y avait maman Norine et il y avait maman Cécile, sans qu'il sût au juste si l'une des deux était sa maman plus que l'autre. Elle ne travaillait plus, elle ne vivait plus que pour lui. L'une belle encore à 40 ans, sauvée des hommes par sa maternité tardive, l'autre restée fillette à 30 ans bientôt, ayant mis sur cet enfant tout l'amour éperdu de l'amoureuse et de l'épouse qu'elle ne pourrait jamais être. Or, ce dimanche-là, vers 10 heures, on frappa fort à 2 reprises. Puis, la porte ouverte, ce fut un garçon trapu, de 18 ans environ, qui entra. Il était brun, la face carrée, la mâchoire dure, avec des yeux d'un gris pâle. Et il avait un vieux veston en loques, une casquette de drap noir, roussie par l'usure. « Pardon, » demanda-t-il, « c'est bien ici Mesdames Moineau qui travaille dans le cartonnage ?» Norine, debout, le regardait, prise d'un soudain malaise. Son cœur s'était serré comme sous une menace. Elle avait certainement vu cette figure quelque part, mais elle ne retrouvait dans sa mémoire qu'un danger ancien qui revenait, aggravé, pour gâter son existence. « Oui, c'est ici, » répondit-elle. Sans hâte, le jeune homme faisait des yeux le tour de la pièce. Il devait s'attendre à plus de fortune, car il eut une moue légère. Son regard, ensuite, s'arrêta sur l'enfant, qui, s'amusant à lire, un petit garçon bien sage, avait levé la tête pour examiner le nouveau venu. Et il acheva son inspection par un bref coup d'œil donné à l'autre femme qui était là, si mince, si frêle, l'air inquiet elle aussi, devant l'inconnu qui la portait si brusquement. « On m'avait dit au 4e, la porte à gauche, » reprit-il. Tout de même, j'avais peur de me tromper, parce que ce que j'ai à dire, je ne peux pas le dire à tout le monde. C'est une chose pas commode, et bien sûr qu'avant de venir ici, j'ai fait mes réflexions. » Il traînait les mots. Il ne quittait plus Norine de son regard pâle, après s'être encore assuré que l'autre femme était trop jeune pour être celle qu'il cherchait. L'angoisse croissante dont il la voyait frémir, l'appel évident qu'elle adressait à sa mémoire, lui firent un instant prolonger l'épreuve. Enfin, il se décida. « Je suis l'enfant qu'on a mis en nourrice à Rougemont. Je me nomme Alexandre Honoré. » Et il n'eut pas besoin d'en dire davantage. Norine s'était mise à trembler de tout son pauvre corps. Ses mains se joignirent, se tordirent, tandis que sa face bouleversée blêmissait. Grand Dieu! Beauchêne, c'était à Beauchêne qu'il ressemblait, et d'une façon si frappante, avec ses yeux de proie, sa rude mâchoire de jouisseur tombée aux basses voracités, qu'elle s'étonnait maintenant de n'avoir pas crié son nom à première vue. Ses jambes défaillirent, elle dut s'asseoir. « Alors, c'est vous, » dit simplement Alexandre. Comme elle continuait de grelotter, avouant, sans pouvoir prononcer un mot, tellement le désespoir et la peur la serraient à la gorge, il sentit le besoin de la rassurer un peu, s'il ne voulait pas se fermer du premier coup la porte qu'il venait se faire ouvrir. « Il ne faut pas vous révolutionner à ce point. Vous n'avez rien à craindre de moi. Mon intention n'est pas de vous causer de la peine. Seulement, n'est-ce pas ? Quand j'ai fini par savoir où vous étiez, j'ai eu le désir de vous connaître, c'est bien naturel. Et je me suis même dit que vous seriez peut-être contente de me voir. Puis, la vérité est que je suis dans la peine. Voilà bientôt 3 ans que j'ai eu la bêtise de revenir à Paris, où je n'arrive guère qu'à crever de faim. Les jours où l'on n'a pas déjeuné, ça donne envie, n'est-ce pas, de retrouver les parents qui vous ont lâché à la rue, mais qui, tout de même, n'auraient pas le mauvais cœur de vous refuser une assiette de soupe. » Des larmes montèrent aux yeux de Norine. C'était le comble, ce retour du misérable abandonné, ce grand gaillard inquiétant qui l'accusait, qui criait la faim. Et, fâché de ne tirer toujours d'elle que des frissons et des sanglots, il se tourna vers Cécile. « Je sais, vous êtes sa sœur. Dites-lui donc qu'elle est bête de se manger les sangs. Je ne vais pas l'assassiner, bien sûr. C'est drôle, le gros plaisir qu'elle a de me voir. Pourtant, je ne fais pas de bruit. Je n'ai rien dit en bas à la concierge, je vous jure. » Puis, sans lui répondre, Cécile s'étant levée pour aller au secours de Norine, il s'intéressa de nouveau à l'enfant, que la peur prenait aussi, très pâle, en voyant ses deux mamans dans le chagrin. « Alors, ce gamin-là, c'est mon frère ?» Mais tout d'un coup, Norine, debout, se mit entre l'enfant et lui. L'idée folle l'envahissait d'une catastrophe, d'un écroulement qui devait les broyer. Elle aurait voulu ne pas être méchante, trouver même de bonnes paroles. Et elle achevait de perdre la tête, hors d'elle, dans un soulèvement de révolte, de rancune et d'hostilité. « Vous êtes venu, je comprends ça. Seulement, c'est si cruel. Qu'est-ce que je puis faire, après tant d'années? On ne se connaît pas, on n'a rien à se dire. Et puis, vous le voyez bien, je ne suis pas riche. » Alexandre, d'un regard, fit une seconde fois le tour de la pièce. « Je vois bien. Et mon père, vous ne pouvez pas me dire son nom. » Elle resta saisie. Elle blêmit encore pendant qu'il continuait. « Parce que, si mon père avait 10 sous, je saurais le forcer à m'en donner. On ne jette pas les enfants comme ça, au coin des bornes. » Brusquement, elle avait revu le passé. Beauchêne, l'usine, le père Moineau, qui venait d'en sortir, infirme, en y laissant son fils Victor. Et elle fut prise d'une prudence instinctive à la pensée que, si elle livrait le nom de Beauchêne, ce serait peut-être compromettre toute sa vie heureuse au milieu des complications terribles qui pourraient se produire. Sa peur de ce garçon louche, qui suait la paresse et le vice, l'inspira. « Votre père, il y a longtemps qu'il est mort. » Sans doute, il ne savait rien. Il n'avait rien appris de ce côté, car il ne douta pas, tant elle avait mis d'énergique vouloir dans son affirmation. Il n'eut qu'un geste brutal, disant sa colère de voir ainsi détruite l'espérance vorace de sa démarche. « Faut donc crever de faim !» Norine, bouleversée, n'avait qu'un besoin douloureux, qu'il ne fût plus là, qu'il ne la torturât plus par sa présence, tant son pauvre cœur saignant était à la fois plein de remords, de pitié, d'épouvante et d'horreur. Elle ouvrit un tiroir et prit une pièce de 10 francs, des économies de 3 mois qu'elle destinait aux étrennes de l'enfant, et les donnant à Alexandre. « Écoutez, je ne puis rien faire pour vous. Nous vivons 3 dans cette chambre. Nous avons à peine du pain. Cela me chagrine beaucoup de vous savoir malheureux. Mais il ne faut pas compter sur moi. Faites comme nous. Travaillez. » Il avait empoché les 10 francs. Il resta un instant encore à se dandiner, à dire qu'il n'était pas venu pour ça, qu'il savait comprendre les choses. Il se conduisait bien avec les gens, quand les gens se conduisaient bien avec lui. Et il répéta que son idée n'était pas de faire du scandale, du moment qu'elle se montrait gentille. Une mère qui partageait, accomplissait son devoir, ne donna-t-elle que 10 sous. Puis, comme il partait enfin, « Ne voulez-vous pas m'embrasser ?» Elle l'embrassa, les lèvres froides, le cœur mort. Elle garda aux joues un petit frisson des 2 lourds baisers qu'il y posa ensuite, avec une affectation bruyante. « Et au revoir, n'est-ce pas? On a beau être pauvre et ne pouvoir habiter ensemble, on sait tout de même qu'on existe maintenant. Et ça ne m'empêchera pas de monter de temps à autre, vous dire en passant un petit bonjour. » quand il eut disparu, un long silence régna, dans l'infinie détresse qu'il laissait de son passage. Norine était retombée sur une chaise, comme sous l'écrasement de la catastrophe. En face d'elle, Cécile, accablée, elle aussi, avait dû également s'asseoir. Et ce fut elle, au milieu du deuil de la grande chambre, où le matin encore tenait leur bonheur, qui parla la première pour dire son étonnement, sa protestation. « Mais tu ne lui as rien demandé, nous ne savons rien de lui. D'où vient-il? Que fait-il? Que veut-il? Et surtout, comment a-t-il pu te découvrir? C'était les seules choses intéressantes à savoir. » « Que veux-tu ? » répondit Norine. « Quand il m'a dit son nom, ça m'a glacée, anéantie. Oh, c'est bien lui. Tu as aussi reconnu le père, n'est-ce pas ? Et tu as raison. Nous ne savons rien. Nous allons vivre à présent sous cette menace, avec la peur continuelle que la maison ne s'écroule sur notre tête. » Elle se remit à sangloter, sans force, sans courage, ne bégayant plus que des paroles noyées de larmes. « Un grand garçon de 18 ans qui vous arrive comme ça, sans crier garde. Et c'est bien vrai que je ne l'aime pas, puisque je ne le connais seulement pas. Quand il m'a embrassée, je n'ai rien senti, qu'un froid de glace, comme si mon cœur était gelé. Mon Dieu, que j'ai de peine, que tout ça est vilain, et sale, et cruel. » Et comme son enfant, en la voyant pleurer, accourait, se jeter sur sa poitrine, effrayé, en larmes lui-même, elle le serra éperdument dans ses bras. « Mon pauvre petit, mon pauvre petit, pourvu que tu n'en souffres pas, que ce ne soit pas sur toi que retombe la faute. Ah, ce serait une rude punition. Le mieux est décidément de se bien conduire, quand on ne veut pas avoir des embêtements plus tard. » Le soir, les deux sœurs, s'étant un peu calmées, décidèrent qu'elles devaient écrire à Mathieu. Norine se rappela la visite qu'il lui avait faite quelques années plus tôt pour lui demander si Alexandre n'était pas venu la voir. Lui seul connaissait l'affaire, savait où se renseigner. Et dès qu'une lettre l'eut averti, Mathieu s'empressa d'accourir rue de la Fédération, inquiet du contre-coup qu'une telle aventure pouvait avoir à l'usine, dans la situation de Beauchesne, qui s'embarrassait chaque jour davantage. Après avoir longuement interrogé Norine, il devina qu'Alexandre avait dû découvrir l'adresse de celle-ci par la couteau, sans bien saisir encore l'enchaînement logique des faits, tant il y avait de lacunes et de trous. Enfin, à la suite d'un grand mois de discrètes recherches, de conversations avec Madame Menoux, avec Céleste, avec la couteau elle-même, il put rétablir à peu près les choses. L'éveil venait certainement de l'enquête qu'il avait chargé la meneuse de faire à Rougemont, lorsqu'elle s'était rendue au hameau de Saint-Pierre, pour recueillir des renseignements sur l'enfant qui devait être en apprentissage chez le Charron Montois. Elle avait trop parlé. Elle en avait trop dit, surtout à l'autre apprenti Charron, à ce Richard, un enfant de l'assistance publique, d'instinct si mauvais lui aussi, que 7 mois plus tard, il filait à son tour comme Alexandre, après avoir volé son patron. Là, des années se passaient, on perdait leurs traces. Mais plus tard, à coup sûr, les deux jeunes vauriens s'étaient retrouvés sur le pavé de Paris, de sorte que le grand Roux avait appris au petit Brun toute l'histoire, et de quelle façon ses parents le faisaient rechercher, et peut-être qui était sa mère, le tout noyé de commérages, d'inventions saugrenues. Seulement cela ne suffisait pas. Mathieu fut amené, pour comprendre comment le garçon avait eu l'adresse, à l'hypothèse qu'il la tenait de la couteau, mise au courant de bien des choses par Céleste. Car il eut la preuve, à la maison Broquette, qu'un jeune homme trapu, de mâchoire brutale, était venu 2 fois y causer avec la meneuse. Sans doute, des faits restaient inexpliqués. L'aventure s'agitait dans cette ombre tragique des bas-fonds parisiens, dont il n'est pas sain de remuer la boue. Il finit par se contenter de se rendre compte, en gros, de l'affaire, pris d'effroi lui-même devant le dossier déjà lourd des 2 bandits lâchés sur le pavé de la grande ville, vivant de hasard, traînant leur paresse et leurs vices. Et il n'eut qu'une certitude consolante, ce fut que, si la mère, Norine, était connue, le nom et la situation du père, Beauchesne, n'étaient certainement soupçonnés de personne. Lorsque Mathieu revit Norine, il la terrifia par les quelques détails qu'il dut lui donner. « Oh, je vous en supplie, qu'il ne revienne pas. Trouvez un moyen, empêchez-le de revenir. Ça me fait trop de mal de le voir. » Naturellement, Mathieu n'y pouvait rien. Et tout son effort, après de mûres réflexions, devait se restreindre à empêcher Alexandre de découvrir Beauchesne. Ce qu'il avait appris du garçon était si gros, si bassement douloureux, qu'il voulait éviter à Constance elle-même l'affreux scandale d'un tel chantage. Il la voyait blêmir devant l'ignominie de cet enfant, qu'elle avait si passionnément souhaité, cherché, dans la perversion de son amour trahi. Et il était pris de honte pour elle. Il jugeait nécessaire et pitoyable d'ensevelir le secret en un silence de tombe. Mais ce ne fut pas sans un long combat, car il trouvait dur aussi d'abandonner le misérable au pavé. Était-il encore un sauvetage possible? Il ne le croyait guère. Puis, qui voudrait, qui saurait mener jusqu'à la guérison une cure d'honnêteté par le travail? Un être de plus à la mer, dans la tempête, et son cœur saignait de le condamner, bien qu'il doutât de tout moyen raisonnable de salut. « Mon avis, dit-il à Norine, est qu'en ce moment vous lui cachiez le nom de son père. Nous verrons plus tard. Aujourd'hui, je redouterai des ennuis pour tout le monde. » Elle approuva vivement. « Oh, ne vous inquiétez pas, je lui ai déjà dit que son père était mort. Toute l'histoire me retomberait sur le dos, et j'ai tant le désir qu'on me laisse tranquille, dans mon coin, avec mon petit. » La face chagrine, Mathieu réfléchissait encore, ne pouvant se décider à l'abandon. « Je lui trouverais bien quelque chose s'il voulait travailler. Plus tard, je le prendrais même à la ferme, lorsque je ne craindrais plus qu'il m'empoisonnât mon petit peuple. Je vais voir. Je connais un charron qui l'emploierait sans doute, et je vous écrirai la réponse pour que vous lui disiez où il doit se présenter quand il reviendra vous voir. « Comment ? Quand il reviendra ? » cria-t-elle désespérée. « Vous croyez donc qu'il va revenir ? Oh, mon Dieu, je ne serai plus jamais heureuse. » Il revint, en effet. Mais lorsqu'elle lui donna l'adresse du charron, il haussa les épaules en ricanant. Les charrons, à Paris, il les connaissait, des exploiteurs, des fainéants qui faisaient travailler le pauvre monde pour eux. D'ailleurs, il n'avait pas fini son apprentissage. Il n'était bon qu'à faire les courses. Il voulait bien une place dans un grand magasin. Et quand Mathieu lui eut procuré cette place, il n'y resta pas 15 jours. Il disparut un beau soir avec les paquets de marchandises qu'il portait. Successivement, il commença l'état de boulanger, il servit les maçons, il fut employé aux halles sans jamais se fixer nulle part, décourageant son protecteur, laissant à liquider derrière lui toutes sortes de vilenies. On dut renoncer au sauvetage. Il fallut se borner simplement, lorsqu'il reparaissait, en loques, ave, affamé, à lui donner de quoi s'acheter une veste et du pain. Alors, Norine ne vécut plus que dans cette mortelle inquiétude. Durant des semaines, Alexandre semblait mort, mais elle n'en tressaillait pas moins au moindre bruit sur le palier. Toujours elle le sentait là, et quand il frappait, brusquement, elle reconnaissait son coup de poing. Elle se mettait à trembler comme s'il venait la battre. Il s'était bien aperçu de quelle force d'anéantissement il terrorisait la triste femme. Il en abusait pour tirer d'elle tout ce qu'elle cachait au fond de ses tiroirs. Quand elle lui avait promis la pièce de 100 sous, l'aumône dont Mathieu la chargeait discrètement, il ne s'en contentait pas, il voulait fouiller lui-même. Parfois, il tombait chez elle, égaré, racontant qu'il irait en prison le soir s'il n'avait pas 10 francs, parlant de tout casser dans la chambre, d'emporter la petite pendule afin de la vendre. Et il fallait que Cécile s'interposât, le jeta dehors, très brave, si mince et si chétive qu'elle fût. Il ne partait que pour revenir quelques jours plus tard, avec des exigences nouvelles, des menaces de crier son histoire dans l'escalier, à moins qu'on ne lui donnât les 10 francs. Un jour, comme sa mère pleurait, n'ayant pas un sou, il voulut découdre le matelas, en disant qu'elle y cachait son magot. Le pauvre ménage des deux sœurs devenait un enfer. Mais le désastre fut qu'Alexandre fit, rue de la Fédération, la connaissance d'Alfred, le plus jeune frère de Norine, le dernier-né des moineaux. Il avait alors 20 ans, 2 ans de plus que son neveu d'occasion, comme il appela plaisamment Alexandre, dès leur première rencontre. Et il n'était pas de pire rôdeur de trottoir. Le voyou blême, la face imberbe et sans cils, aux yeux clignotants, à la bouche tordue, toute la plante mauvaise du ruisseau, poussée librement dans le fumier parisien. À l'âge de 7 ans, il volait ses sœurs. Il battait Cécile le samedi pour arracher sa paix de ses petites mains faibles. Jamais la mère Moineau, éreintée de sa besogne, ne pouvant le surveiller, n'était parvenue à lui faire fréquenter l'école, à le maintenir ensuite en apprentissage. Et il l'exaspérait tellement qu'elle finissait par l'envoyer elle-même à la rue afin d'avoir la paix. Les grands frères lui allongeaient des taloches, le père était au travail du matin au soir. L'enfant, moralement abandonné, poussait au dehors pour le vice et pour le crime, parmi le flot grouillant des gamins et des gamines de son âge, qui se pourrissaient ensemble, tels que des pommes hâtives tombées des branches. Et il avait grandi en corruption, et il était l'excès sacrifié de la famille pauvre, le trop-plein versé à l'égout, le fruit gâté qui gâtait les autres. Comme Alexandre, d'ailleurs, il ne vivait plus que de hasard, s'en consumait où il couchait, depuis que la mère Moineau était allée mourir à l'hôpital, épuisé d'avoir trop enfanté dans la misère et sous l'écrasement de son rude ménage. Elle n'avait que 60 ans. Elle marchait courbée, détruite, telle qu'une centenaire. Son aîné de 2 ans, le père Moineau, déjeté comme elle, pris par les jambes que tordait la paralysie, lamentable ruine de 50 années d'injuste travail, venait d'être forcé de quitter l'usine. Et c'était la maison vidée, les quelques misérables nippes aux 4 vents. Lui, heureusement, touchait une petite pension de retraite, qu'il devait à l'initiative pitoyable de Denis. Mais il tombait en enfance, hébété par son long effort de cheval de manège. Il buvait ses quelques sous, il ne pouvait rester seul, les pieds impotents, les mains si tremblantes qu'il manquait de mettre le feu quand il allumait sa pipe. De sorte qu'il était venu s'échouer chez ses 2 filles, Norine et Cécile, les seules de la famille qui avaient eu le bon cœur de vouloir bien le recevoir. Elle lui avait loué un cabinet au-dessus de leur chambre au 5e. Elle le soignait, dépensait sa maigre pension à sa nourriture, à son entretien, en ajoutant beaucoup du leur. Cela faisait, comme elle le disait d'un air de gai courage, qu'elles avaient désormais 2 enfants, le tout petit et le tout vieux. Une lourde charge pour 2 femmes qui gagnaient 5 francs à coller leur boîte du matin au soir. Et l'ironie tendre des choses voulait que le père Moineau n'eût trouvé d'autre refuge que chez Norine, la fille autrefois chassée par lui, maudite pour son éconduite, cette propre à rien, cette cateau qui le déshonorait, et dont il baisait les mains aujourd'hui, lorsqu'elle l'aidait à allumer sa pipe, de peur qu'il ne se flambât le bout du nez. Mais c'était le vieux nid branlant des Moineaux détruits, la famille tout entière envolée, dispersée, au hasard de la chute. Seule Irma, grâce à son beau mariage avec un employé, vivait heureuse, faisait la dame, si vaniteuse qu'elle ne voyait plus ni ses frères ni ses sœurs. Victor recommençait, à l'usine, la vie de son père, tournant la meule que son père avait tournée, du même effort aveugle et têtu. Il s'était marié, il avait 6 enfants déjà, 3 garçons et 3 filles, à moins de 36 ans, refaisant à sa femme le destin de sa mère, la Moineaude, des nuits de rigolade imprévoyante après des jours sans pain, des couches continuelles aggravant les dures besognes du ménage. Et tous deux finiraient également fourbus, tandis que leurs enfants continueraient à leur tour, sans même le savoir, le pullulement de la race maudite des meurs de faim. Chez Euphrasie, l'inévitable destinée était plus tragique encore. La misérable opérée n'avait point eu la chance suprême de mourir. Réduite à rien, depuis qu'elle avait cessé d'être femme, elle s'était peu à peu immobilisée dans un lit, incapable d'un geste, pourtant vivante, écoutant, regardant, comprenant. Et de cette tombe ouverte, elle avait assisté, pendant des mois, à la débâcle de ce qu'il restait de son ménage. Elle était une chose que son mari injuriait, que Madame Joseph, devenue maîtresse, torturait, la laissant des jours entiers sans eau, lui jetant des croûtes comme à une bête malade, dont on ne change pas même la paille. Encore, personnellement, se résignait-elle, frappée de peur et d'humilité dans sa déchéance. Le pis était que les trois enfants, les deux jumelles et le garçon, abandonnés, glissaient à l'ordure, tombaient à la rue. Bénard, le mari, s'était mis à boire avec Madame Joseph, les bras cassés, la tête tournée par le désastre de son foyer. Ensuite, ils se battirent, brisant tout, chassant les enfants qui ne rentraient plus qu'en loques, boueux, les poches pleines de choses volées. Deux fois, Bénard disparut pendant 8 jours. La troisième, il ne revint pas. Quand il fallut payer le terme, Madame Joseph, à son tour, s'en alla, emmenée par un autre homme. Ce fut la fin. Euphrasie dut se faire porter à la salpêtrière, pendant que les enfants, sans domicile, étaient poussés au ruisseau. Le garçon ne reparut pas, comme emporté, englouti dans quelque cloaque. L'une des jumelles, ramassée, mourut l'hiver suivant à l'hôpital. L'autre, Toinette, une maigre fille, terrible sous son air chétif, blonde, avec des dents et des yeux de loup, vivait sous les ponts, au fond des carrières, habitait les bouges, prostituée à 10 ans, déjà vieille à 16 dans la rapine et le vol. C'était l'aventure d'Alfred aggravée, la fille abandonnée moralement, empoisonnée par la rue, guettée par le crime. Et l'oncle et la nièce, s'étant rencontrés, faisaient ménage ensemble, sans qu'on sût au juste où ils couchaient, peut-être du côté des moulineaux, où il y avait des fours à plâtre. Un jour, il arriva donc qu'Alexandre, montant chez Norine, y fit la rencontre d'Alfred, qui parfois venait là pour tâcher de tirer une pièce de 10 sous au père Moineau. Les deux jeunes bandits s'en allèrent ensemble, causèrent, se retrouvèrent. De là naquit toute une association. Alexandre vivait avec Richard. Alfred leur amena Toinette. Ils furent 4. Et il arriva que la maigre Toinette se passionna pour Richard, un colosse, auquel Alfred voulut bien la céder, en bon camarade. Dès lors, chaque soir, elle fut giflée par son nouveau maître quand elle ne lui rapporta pas 100 sous. Mais elle trouvait ça très bon, elle qui, pour une chiquenaude, aurait labouré la face des gens comme une chatte en furie. Et l'histoire commune se déroula. D'abord la mendicité, la fille encore jeune, que les trois rôdeurs poussaient à tendre la main, faisant le guet, forçant à l'aumône les bourgeois attardés, le soir, dans les coins sombres. Puis la prostitution, la fille grandit en menant les hommes derrière les palissades, livrant aux amis ce qu'ils ne payaient pas. Puis le vol, le petit vol pour commencer, la rapine de tout ce qui traînait aux étalages, les coups plus sérieux ensuite, des expéditions préméditées, étudiées, ainsi que de véritables plans de guerre. La bande couchait où elle pouvait, tantôt dans des garnis louches, tantôt dans des terrains vagues. C'était l'été, des flâneries sans fin au travers des bois de la banlieue, en attendant la nuit, qui livrait Paris à leur dévastation. Ils se retrouvaient aux halles, parmi les foules des boulevards, dans les cabarets borgnes, le long des avenues désertes, partout où ils flairaient la chance, le pain de paresse à dérober, la joie du vice à prendre sur les autres. Un vrai clan de sauvages, lâchés en pleine civilisation, vivant hors la loi. Toute une portée de jeunes fauves, battant la forêt ancestrale, la bête humaine retournée à l'état barbare, abandonnée dès la naissance, en proie aux instincts antiques de pillage et de carnage. Et comme les herbes mauvaises, ils poussaient dru, enhardis davantage chaque jour, exigeant une rançon croissante des imbéciles qui travaillaient, élargissant leur vol, en marche pour le meurtre. Au hasard d'une minute de luxure, la semence humaine avait jailli. L'enfant avait poussé sans qu'on y songeât, né au petit bonheur, lâché ensuite sur le trottoir, sans surveillance, sans soutien. Il s'y pourrissait. Il y devenait un terrible ferment de décomposition sociale. Tous ces petits mis au ruisseau, ainsi qu'on porte à l'égout les petits chats trop nombreux, tous ces abandonnés, ces errants du pavé qui mendiaient, qui se prostituaient, qui volaient, faisaient le fumier où germait le crime. L'enfance misérable entretenait ainsi un foyer d'effrayante infection, dans l'ombre tragique des bas-fonds parisiens. Cette semence, si imprudemment jetée à la rue, devenait une moisson de brigandage, l'affreuse moisson du mal dont craquait la société tout entière. Lorsque Norine se douta des exploits de la bande, par les fanfaronnades d'Alexandre et d'Alfred, qui se plaisaient à l'étonner, elle fut prise d'une telle peur qu'elle fit poser un verrou de sûreté à sa porte. Et dès la nuit noire, elle n'ouvrait plus sans qu'on se nommât. Depuis 2 ans bientôt, son supplice durait. L'attente frissonnante où elle était toujours d'une visite possible d'Alexandre. Il avait 20 ans, il parlait en maître, la menaçait d'atroces vengeances quand il devait s'en aller les mains vides. Un jour, sans que Cécile pût s'y opposer, il se jeta sur l'armoire, emporta un paquet de linge, des mouchoirs, des serviettes, des draps, pour les vendre. Et les deux sœurs n'osèrent le poursuivre dans l'escalier, toutes deux éperdues, en larmes, anéanties sur des chaises. L'hiver fut très rude. Le triste ménage des deux pauvres ouvrières, rançonnées de la sorte, serait mort de froid et de faim avec le cher enfant qu'elles gâtaient quand même, sans les secours que leur apporta régulièrement leur ancienne amie, Madame Angela. Elle était toujours dame déléguée de l'assistance publique. Elle continuait à surveiller les enfants des filles mères dans ce terrible quartier de Grenelle que la misère dévore. Mais depuis longtemps, elle ne pouvait plus rien faire pour Norine au nom de l'administration. Et si tous les mois elle lui apportait une pièce de 20 francs, c'était que des personnes charitables lui confiaient leurs aumônes, des sommes assez fortes, sachant qu'elle aurait à qui les distribuer utilement, au fond de l'effroyable enfer où sa fonction la faisait vivre. Elle mettait sa dernière joie, la grande consolation de sa vie désolée, sans enfants, à donner ainsi aux mères pauvres, dont les petits lui riaient d'allégresse dès qu'ils la voyaient venir, les mains pleines de bonnes choses. Un jour, par un temps affreux de pluie et de vent, Madame Angelin s'oublia un instant chez Norine. Il était 2 heures à peine, elle commençait sa tournée, tenant sur les genoux son petit sac, gonflé des pièces d'or et des pièces d'argent qu'elle avait à distribuer. Le père Moineau se trouvait là, en face d'elle, calé sur une chaise, à fumer sa pipe. Et elle se préoccupait de lui, elle expliquait qu'elle aurait bien voulu lui faire obtenir un secours mensuel. « Mais, ajouta-t-elle, si vous saviez ce que souffre le pauvre monde en ces mois d'hiver, nous sommes débordés, nous ne pouvons donner à tous. Vous êtes encore parmi les heureux. J'en vois couchés sur le carreau comme des chiens, qui n'ont pas un morceau de charbon pour se chauffer, pas une pomme de terre pour se nourrir. Et les pauvres petits là-dedans, mon Dieu, des enfants en tas dans la vermine, sans souliers, sans vêtements, poussant pour la prison et l'échafaud, quand la phtisie ne les tue pas. » Elle frissonna, elle ferma les yeux, afin d'échapper à la terrifiante évocation des misères, des hontes, des crimes qu'elle coudoyait, dans ses continuelles courses au travers de cet enfer de la maternité pauvre, de la prostitution et de la faim. Elle en revenait muette, n'osant tout dire, ayant touché le fond de l'abomination humaine. Parfois elle tremblait, elle regardait le ciel, en se demandant quel cataclysme vengeur allait engloutir la cité maudite. « Ah » murmura-t-elle encore, « ils souffrent tant que leur faute leur soit pardonnée. » Hébété, Moineau l'écoutait, sans avoir l'air de comprendre. Il retira péniblement sa pipe de la bouche, car ce geste lui demandait un effort considérable. Lui qui, pendant 50 années, s'était battu contre le fer, à l'étau et sur l'enclume. « Il n'y a que la bonne conduite, » bégaya-t-il sourdement. « Quand on travaille, on est récompensé. » Mais lorsqu'il voulut remettre sa pipe à ses lèvres, il ne le put pas. Sa main, ankylosée par l'outil, tremblait trop. Et il fallut que Norine se levât pour l'aider. « Ce pauvre père, » dit Cécile, qui n'avait pas interrompu son travail, découpant le carton des boîtes. « Que serait-il devenu si nous ne l'avions pas recueilli ? Ce n'est pas Irma, avec ses chapeaux et ses robes de soie, qu'il aurait voulu chez elle. » Cependant, le petit garçon de Norine, depuis que Madame Angelin se trouvait là, s'était planté devant elle, car il savait bien que les jours où la bonne dame était venue, on avait le soir du dessert. Il souriait, les yeux clairs, dans sa jolie face blonde, aux cheveux de soleil ébouriffés. Et quand elle remarqua de quel regard amusé il attendait qu'elle ouvrît son sac, elle fut prise d'un attendrissement. « Viens m'embrasser, mon petit ami !» Elle n'avait pas de plus douce récompense que ce baiser des enfants, dans les maisons pauvres où elle portait un peu de joie. Ses yeux se remplirent de larmes lorsque le petit lui eut sauté gaillardement au cou. Et elle répéta, s'adressant à la mère, « Non, non, ne vous plaignez pas. Il y en a de plus malheureuses que vous. J'en connais une qui, pour avoir ce mignon bien à elle, tout à elle, accepterait vraiment votre misère, et ses boîtes à coller du matin au soir, et cette vie de recluse dans cette pauvre et unique pièce qu'il suffit à emplir de soleil. Ah, grand Dieu, si vous vouliez, si nous pouvions changer !» Un instant, elle se tut, craignant d'éclater en sanglots. C'était sa plaie éternellement rouverte. L'enfant d'abord remis à plus tard, puis l'enfant tant désiré, et qui n'était jamais venu. Les époux vieillissaient maintenant dans une solitude amère, occupant 3 étroites pièces sur une cour, rue de Lille, vivant ainsi à l'écart, grâce aux appointements de dames déléguées, joints à ce qu'ils avaient pu sauver de leur fortune. Complètement aveugle, l'ancien peintre, éventailliste, si triomphant, n'était plus qu'une chose, une pauvre chose douloureuse que sa femme asseyait le matin dans un fauteuil, qu'elle y retrouvait le soir, quand elle rentrait de ses continuelles courses au travers des misères affreuses, des mères coupables, des enfants martyrs. Il ne pouvait ni manger ni se coucher sans elle. Il n'avait plus qu'elle. Il était son enfant, comme il le disait avec une ironie désespérée, qui les faisait pleurer tous les deux. Un enfant, mais elle avait fini par en avoir un, et c'était lui, un vieil enfant de désastre, qui, à moins de 50 ans, paraissait en avoir 80, rêvant de soleil dans son éternelle nuit noire, pendant les longues heures qu'il devait passer seul. Et elle n'enviait pas seulement son petit garçon à cette ouvrière pauvre, elle lui enviait aussi ce vieillard fumant sa pipe, cet infirme du travail, qui lui au moins voyait clair, vivait encore. « Ne tourmente pas, madame, » dit à son fils Norine, inquiète, émue de la sentir troublée, le cœur si gros. « Va jouer !» Elle savait, par Mathieu, un peu de l'histoire. Elle avait pour sa bienfaitrice une reconnaissance, une sorte de respect passionné qui la rendait timide, déférente, chaque fois qu'elle la voyait venir ainsi, grande, distinguée, toujours vêtue de noir, avec les restes de sa beauté, ruinée par les larmes, à 46 ans à peine. C'était pour elle comme une reine déchue dans d'effroyables et injustes douleurs. « Va, va jouer, mon chéri, tu fatigues madame !»« Me fatiguer, oh non !» cria madame Angelin, victorieuse de son émotion. « Il me fait du bien, au contraire. Embrasse-moi. « Embrasse-moi encore, mon bel enfant !» Puis elle s'agita, elle se reprit. « Voyons, je m'attarde, et j'ai tant de courses avant ce soir. Voici ce que je puis faire pour vous. » Mais, au moment où elle tirait enfin une pièce d'or de son petit sac, il y eut un coup de poing donné dans la porte. Et Norine pâlit affreusement. Elle avait reconnu le coup de poing d'Alexandre. Que faire? Si elle n'ouvrait pas, le bandit continuerait à frapper, soulèverait un scandale. Elle dut ouvrir. Et les choses n'eurent rien de la violence tragique qu'elle redoutait. Surpris de trouver là cette dame, Alexandre ne desserra même pas les lèvres, se glissa, resta debout contre un mur. L'inspectrice avait levé, puis détourné les yeux, comprenant que ce garçon, accueilli de la sorte, était quelque ami, quelque parent. Et elle continua, sans cacher rien. « Voici 20 francs, je ne puis faire davantage. Seulement je vous promets que le mois prochain, je tâcherai de doubler la somme. C'est le mois du terme, et j'ai déjà sollicité partout. On donnera le plus qu'on pourra. Hélas, aurais-je assez? J'ai tant de demandes. » Son petit sac était resté ouvert sur ses genoux. Et de ses yeux luisants, Alexandre le fouillait. Y soupesait le trésor des pauvres, l'or et l'argent, les gros sous même qui gonflaient le cuir. Toujours silencieux, il la regarda le fermer, en passer à son poignet la chaînette, puis se lever de sa chaise. « Alors, au revoir, au mois prochain, n'est-ce pas ? » reprit-elle. « Je viendrai le 5, sûrement. Je commencerai sans doute ma journée par vous. Mais il est possible que ce soit assez tard dans la journée, car c'est justement la fête de mon pauvre mari. Allons, bon courage, travaillez bien. » Norine et Cécile s'étaient levées également pour l'accompagner jusqu'à la porte. Et il y eut là encore des remerciements infinis, et l'enfant baisa de nouveau la dame sur les deux joues de tout son petit cœur. Les deux sœurs, épouvantées par l'apparition d'Alexandre, respirèrent. L'aventure finit même assez bien, car il se montra coulant, et il se contenta, lorsque Cécile fut allée faire de la monnaie, d'une pièce de 100 sous sur les 4 qu'elle remonta. Il ne traîna pas à les torturer comme d'habitude, il emporta la pièce tout de suite, en sifflant un air de chasse. Le mois suivant, le 5, un samedi, fut un des jours les plus noyés de pluie, les plus sombres du triste hiver. Dès 3 heures, la nuit se fit rapide, presque complète. Il y avait, dans ce bout désert de la rue de la Fédération, un vaste terrain vague, un terrain à bâtir, que depuis des années fermait une palissade pourrie à la longue par l'humidité. Des planches manquaient, une brèche s'était faite à l'une des extrémités. Et tout l'après-midi, une maigre fille se tint là, malgré les continuelles averses, enveloppée d'un vieux morceau de châle troué, qui la cachait jusqu'aux yeux, sans doute pour la protéger du froid. Elle devait attendre quelque hasard, l'aumône d'un passant charitable, la débauche d'un rôdeur peu difficile, dans une impatience qui la détachait à chaque minute des planches où elle se rasait, telle qu'une bête à l'affût, allongeant sa mince tête de fouine, guettant là-bas, du côté du Champ de Mars. Les heures s'écoulèrent, 3 heures sonnèrent, et des nuages si sombres roulèrent dans le ciel livide que la fille parut noyée elle-même, une épave jetée aux ténèbres. Parfois, elle levait la tête, regardait de ses yeux luisants le ciel noircir, comme pour le remercier de jeter tant d'ombre dans ce coin désert de guet-apens. Ce fut alors, au moment où recommençait un déluge, qu'une dame s'avança, vêtue de noir, toute noire sous un parapluie ouvert. Elle marchait vite, elle évitait les flaques, en personne pressée qui fait ses courses à pied, afin d'épargner l'argent d'une voiture. De loin, Toinette dut la reconnaître à quelque signalement précis. C'était Madame Angelin, qui se hâtait, venant de la rue de Lille, courant chez ses pauvres, avec la chaînette de son petit sac passée à son poignet. Et lorsque la fille vit scintiller l'acier de cette chaînette, elle ne douta plus. Elle eut un sifflement léger. Aussitôt, des cris, des plaintes s'élevèrent d'un coin obscur du terrain vague, tandis qu'elle-même se mettait à gémir en jetant des appels lamentables. Étonnée, troublée, Madame Angelin s'arrêta. « Qu'avez-vous donc, mon enfant ?»« Oh, madame, c'est mon frère qui est tombé là-bas et qui s'est cassé la jambe. »« Comment tombé? D'où tombé ? » Oh oui, madame, il y a un hangar où nous couchons, parce que nous n'avons pas de chambre, et il s'est servi d'une vieille échelle pour empêcher la pluie de nous couler sur la tête, et qui s'est cassé la jambe. » Elle éclata en sanglots, demandant ce qu'ils allaient devenir, bégayant qu'elle se désespérait là depuis 10 minutes sans que personne vînt à leur secours par cette pluie et ce froid de chien. Pendant ce temps, les cris pitoyables, les plaintes douloureuses, redoublaient au fond du terrain vague. Le cœur bouleversé, Madame Angelin eut pourtant une hésitation de défiance. « Il faut courir chercher un médecin, ma pauvre enfant !» « Moi, je ne puis rien faire. »« Oh si, madame, venez. Je ne sais pas où ça se trouve, un médecin. Venez, nous le ramasserons, car je ne puis pas, moi, toute seule, et nous le mettrons au moins sous le hangar pour que la pluie ne tombe plus sur lui. » Cette fois, elle céda, tant l'accent lui parut vrai. Ses continuelles visites dans les bouges, où le crime poussait sur le fumier de misère, l'avaient rendu brave. Elle dut fermer son parapluie quand il fallut, entre les planches rompues, se glisser par le trou, à la suite de la fille qui filait devant elle, dans sa loque de châle, la tête nue, mince et souple comme une chatte. « Donnez-moi la main, madame. Prenez garde, parce qu'il y a des rigoles. C'est là-bas, au fond. Vous entendez comme il souffre, le pauvre frère? Là, nous y sommes. » Alors, ce fut foudroyant et sauvage. Les trois bandits, Alexandre, Richard et Alfred, terrés dans l'ombre, bondirent, se jetèrent sur Madame Angelin d'un tel choc de loup dévorant qu'elle fut renversée. Pourtant, Alfred, lâche, la laissa aux deux autres, courut au trou de la palissade avec Toinette faire le guet. Alexandre, qui tenait près son mouchoir, roulé en tampon, l'avait mis dans la bouche de la dame pour étouffer ses cris. Leur intention n'était que de l'étourdir, puis de se sauver avec le petit sac. Mais le mouchoir dut glisser. Elle cria, un grand cri terrible. Et à ce moment, les deux autres, là-bas, au trou, jetèrent le sifflement d'alarme, sans doute des passants qui s'approchaient. Il fallait en finir. Alexandre lui noua le mouchoir au cou, tandis que Richard lui renfonçait du poing son cri dans la gorge. La folie rouge souffla. Tous deux se mirent à tordre le mouchoir, à serrer, à traîner la dame dans la boue du champ, jusqu'à ce qu'elle ne bougeât plus. Puis, comme le sifflement recommençait, ils prirent le sac, laissèrent là le corps avec le mouchoir au cou, galopèrent tous les quatre jusqu'au pont de Grenelle, d'où ils lancèrent le sac à la Seine, après avoir fourré dans leurs poches les sous, les pièces blanches et les pièces jaunes. Lorsque Mathieu lut dans les journaux les détails du crime, il fut saisi d'épouvante. Il accourut rue de la Fédération. L'identité de Madame Angelin vite établie, le meurtre commis dans ce terrain vague, à 100 mètres de la maison où habitaient les deux sœurs, le bouleversait d'un terrible pressentiment. Et tout de suite, il sentit se réaliser ses craintes, lorsqu'il dut frapper 3 fois, et que ce fut Cécile, toute tremblante, qui débarricada la porte pour l'introduire dès qu'elle l'eut reconnue. Norine était au lit, malade, d'une pâleur de linge. Elle se mit à sangloter. Elle lui conta l'histoire avec des frissons, la visite de Madame Angelin, la brusque entrée d'Alexandre, qui avait vu le sac, qui avait entendu la promesse du prochain secours, la date et l'heure. Et elle ne pouvait d'ailleurs avoir aucun doute. Le mouchoir trouvé au cou de la victime était un mouchoir à elle, un des mouchoirs qu'Alexandre lui avait volé, brodé de l'initiale de son prénom, une de ces pauvres coquetteries à bon marché qui se vendent par milliers dans les grands magasins. C'était le seul indice, si vague, si général, que la police cherchait toujours, égarée sur plusieurs pistes, désespérant d'aboutir. Mathieu, assis près du lit, restait glacé. Grand Dieu, cette triste Madame Angelin! Il la revoyait jeune, si gaie, si éclatante là-bas, à Janville, battant les bois avec son mari, s'égarant par les sentiers déserts, s'oubliant à l'ombre discrète des saules de lieuse, dans une telle fête d'amour que leurs baisers sonnaient sous les branches comme chants d'oiseaux. Il la revoyait plus tard, déjà trop punie de cette saison imprévoyante de folle tendresse, désespérée de ne pouvoir faire cet enfant qu'elle avait trop tardé à vouloir. accablée par l'infirmité lente qui lui mettait au bras un mari aveugle, obscurcissant de sa nuit ce qu'il leur restait de bonheur. Et brusquement, il le revit aussi, le lamentable aveugle, le soir où il avait dû attendre le retour de sa femme pour qu'elle le fît manger et le couchât. Ce vieil enfant, aujourd'hui sans mère, abandonné, seul à jamais dans ses ténèbres, n'y vivant plus qu'avec le spectre sanglant de l'assassiné. De telles promesses d'une vie radieuse et un tel destin, une telle mort. « Nous avons eu raison, » murmura Mathieu, qui songeait à Constance, « de cacher à ce misérable le nom de son père. Quelle effroyable chose! Il faut enterrer le secret au plus profond de nous-mêmes. » Norine fut reprise de son frisson. « Oh, ne craignez rien, je mourrai plutôt que de parler. » Des mois, des années s'écoulèrent, et jamais on ne découvrit les assassins de la dame au petit sac. Pendant des années, Norine frémit chaque fois qu'un poing trop rude tapait à sa porte. Mais Alexandre ne reparut pas, redoutant sans doute ce coin de la rue de la Fédération, comme submergé dans l'océan de Paris, aux abîmes obscurs insondables.